se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Et oui, nous sommes de retour sur RMC en ce samedi 14 mars 2020. Et juste après le jardin, et avant de retrouver Christian Aïka pour la forme et la santé tout à l'heure entre 8h et 9h, vous le savez, c'est comme ça chaque samedi, il est à mes côtés avec sa boîte à outils remplie à ras-bord. Lui, c'est Christian Pessé.
Bonjour mon cher François, comment ça va?
Bon, ça va très bien Christian. Tout à l'heure, nous allons donner quelques conseils à nos auditeurs pour se prémunir du virus, du coronavirus dans la maison.
Et oui, il y a des moyens pour
effectivement
se protéger, on en parlera tout à l'heure.
Très bien. Et puis notre gros dossier de ce samedi matin, on va évoquer ensemble le biogaz et la méthanisation.
Voilà,
c'est le gaz vert en fait.
C'est le gaz vert, mais c'est une forme donc de gaz vert. Comment on peut produire, notamment à partir de déchets végétaux, dans un certain nombre de configurations, dans les exploitations agricoles, mais aussi on va voir, on aura un invité téléphone tout à l'heure. Qui nous présentera une unité de méthanisation dans une fabrique de chips.
De chips,
ah, c'est mignon ça.
C'est-à-dire avec des chips, on n'a rien à faire du gaz.
Non, avec les épluchures. Avec
des épluchures,
avec le
de pommes de terre,
le jus d'amidon,
ah oui,
qui est recyclé, qui donc permet, on va voir, de faire vraiment du gaz de façon significative. Mais notre invité principal sera Marion Verspiren, qui est qui on va dire porte-parole de GRDF aujourd'hui. Dans cette émission.
Parfait, voilà. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, sur le biogaz, n'hésitez pas, le 3216, l'appli RMC Direct Studio. À tout moment, vous pouvez nous joindre, bien sûr. On est là, vous le savez, avec Christian, jusqu'à 8h. Et puis votre coup de cœur, tiens, de ce samedi matin, on parlera du début d'instruction des dossiers,
voilà,
MaPrimeRénov.
Voilà. C'est vrai que j'ai toujours été un peu sceptique, je le reste encore un petit peu, mais normalement, à partir du mois d'avril, oui, on va entrer donc dans la phase de MaPrimeRénov qui remplace déjà en partie donc le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui vit ses derniers mois, c'est-à-dire sa dernière année, et encore la cohabitation de deux systèmes, la prime directe ou bien ce crédit d'impôt, et l'ANA a craché par terre, en ce moment avec le virus, non, l'ANA a juré que à partir d'avril, les dossiers commenceraient à être traités et les primes arriveraient.
Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr.
Je fais un coup de cœur, mais peut-être que je ferai un coup de gueule si ça n'arrive pas.
Ça, je compte sur vous.
N'est-ce pas?
Merci d'être avec nous, c'est RMC, c'est parti pour ce week-end des experts maison, on attaque avec Hervé qui est là. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bonjour Hervé.
Bienvenue Hervé sur RMC. Tout va
merci
bien.
Merci beaucoup, merci de me prendre en ligne. Tout va bien, merci.
Parfait, vous nous appelez d'où?
Toulouse.
Toulouse, d'accord.
La Haute-Garonne.
Ça se sent, mais
voilà, c'est ça.
Un tout petit peu dans votre voix, mais un tout petit peu dans votre accent. Qu'est-ce qui vous arrive, Hervé? Christian Pessé, tout oui.
Allez-y.
Oui, je voulais avoir l'avis de Christian Pessé parce que j'ai une maison de 1985 avec un crépi, d'époque, un crépi très épais, très très épais, qui prend toute la poussière, qui prend toute la salissure, hyper épais, on ne peut pas se frotter dessus. Et je veux refaire un crépi plat, un crépi discret, sur ce crépi déjà existant. Le problème, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai déjà peint ce crépi une fois, avec une peinture de professionnel. Voilà. Alors j'ai fait venir un pro à la maison, spécialiste crépi digne de ce nom, connu dans la région. Ouais. Et il m'a dit, je suis désolé, sur un crépi peint, je ne peux pas projeter du crépi parce qu'il ne va pas tenir.
Et je crains qu'il ait raison. Ça s'appelle votre crépi. Voilà. J'imagine que c'est un RPE, ce qu'on appelle un crépi plastique épais. C'est un revêtement plastique épais. Et effectivement, on ne peut pratiquer. Enfin, c'est le conseil des fabricants, hein, de dire normalement, on ne peut pas. On peut le repeindre une fois. Mais si on repeint une deuxième fois, ça va pas tenir. Donc il y a pas, je crains pour vous d'autres solutions que
donc,
de l'enlever.
Oui. Là j'ai un devis. Là j'ai un devis de ce professionnel. Il me dit que il met une colle sur ce crépi, une colle, et sur cette colle, il projette du crépi. Le problème c'est qu'il y a une surface de 135 mètres carrés. Et pour rien vous cacher, j'ai un devis de 12 000 euros. Quoi.
D'accord.
12 000 euros.
Ça fait un peu cher le crépi.
Alors écoutez-moi, comment votre maison est isolée ?
Par les combles.
Non, mais les murs, ils sont pas isolés ?
Ah non, c'est une maison.
Eh bien alors, pour 12 000 euros, vous allez me faire l'isolation de cette maison par l'extérieur. Ce qui fait que vous allez bénéficier en plus de subventions et de soutien non négligeable de la part de l'État, des instances locales, de ce qu'on appelle les C2E, c'est-à-dire les certificats d'économie d'énergie. Et vous allez avoir à la fois une façade qui va être faite, mais surtout vous allez gagner en chauffage de façon considérable. Donc je pense que c'est absolument ce qu'il faut que vous fassiez.
Ah ouais, d'accord. Mais c'est des plaques vissées dans mon
extérieur. Il y a différents systèmes. Vous allez en avoir qui vont se monter sur ossature, vous en allez avoir qui vont se coller. Il y a là une quantité de solutions. Alors vous faites une chose, vous faites www.fer.fr. Fer.fr, F-A-I-R-E.fr, c'est le site de l'État avec l'ADEME derrière. Et là, vous allez demander à un technicien qui passera chez vous, un conseiller, qui passera chez vous et qui vous lui direz, voilà, moi je veux faire l'isolation de ma maison par l'extérieur. D'après vous, qu'est-ce que vous me conseillez en fonction de la structure de la maison ?
D'accord.
Voilà. Et vous allez voir que non seulement vous allez pas vous embêter avec des travaux qui vont mettre de la saleté partout, parce que refaire en plus, je crois pas tellement à la solution de la colle et de l'enduit par-dessus. Moi, je suis d'avis dans un cas comme ça. Si vous vouliez seulement faire un crépi, faut tout gratter et puis on repart avec un véritable enduit de façade. Mais en l'occurrence, moi, je pense que pour une somme pareille, qui me paraît assez exorbitante, pour simplement refaire la façade, telle qu'on vous le propose, moi je passerai à l'isolation.
Ah d'accord.
Voilà, et vous et selon vos revenus, si ça se trouve, ça va vous revenir très peu cher.
Bon, ben merci du conseil, je vais me renseigner là-dessus. Alors une isolation extérieure.
Voilà.
D'accord.
Fer.fr.
Ok, ben merci beaucoup.
Merci Hervé. Merci à vous.
À bientôt. Dites-nous comment ça va évoluer votre affaire.
Et tout comme Hervé, vous voulez poser votre question maison, bricolage à Christian PC, profitez-en. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Ben voilà, vous avez fait, c'est une bonne affaire pour Hervé.
Oui,
là,
je pense, parce que en ce moment, bon, je vais pas dire qu'on va faire de l'isolation extérieure pour 1 euro, mais avec les aides, peut être tout à fait modique comme investissement.
Bien joué, Christian. Bravo.
Merci.
Là, je retrouve le Christian PC.
Pourquoi vous l'aviez perdu ?
Un petit peu de temps en temps. Je me disais, mais là, vous voyez, vous faites raviver la flamme. Ça. C'est très bien. Mon cher Christian, il est temps de retrouver maintenant le conseil de l'expert.
RMC, votre maison.
Attention, conseil béton.
Béton.
Et Christian PC.
Christian PC, là, on ne rigole plus. Peut-on se prémunir contre le coronavirus, mais cette fois-ci dans la maison ?
Alors oui, parce qu'on parle beaucoup de gestes à faire, de précautions, et c'est très bien, mais le coronavirus, ça ne s'attrape pas simplement en serrant la main ou en s'embrassant, ça se transmet avant tout par la respiration, donc par l'air que nous respirons. Alors c'est le cas en plus des espaces confinés, on entend sans arrêt dire on a annulé des manifestations parce que l'espace était confiné. Ben dans la maison, l'air il est vraiment confiné. surtout lorsqu'on n'a pas une bonne ventilation.
Le virus survit comme ça lorsque, par exemple, on éternue et qu'il se balade dans l'air.
Bien sûr. Il se forme donc des gouttelettes de mucus qui se mélangent à l'humidité de l'air et à l'humidité qu'on rejette. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué cela. Quand une famille de 4 personnes, c'est un grand seau d'eau évacué, produit d'eau de respiration par condensation. Donc là, il est clair que si on peut traiter l'air, on va éviter les expectorations, on va éviter la toux et ses conséquences sur l'atmosphère ambiante. Alors la première des précautions, c'est de ventiler. Donc ça veut dire avoir une ventilation mécanique contrôlée ou par insufflation. Ne jamais l'arrêter, parce qu'on voit beaucoup de gens qui l'arrêtent la nuit parce que ça fait trop de bruit et parce qu'on pense faire des économies d'électricité. Ce qu'il faut, c'est l'isoler, s'isoler du bruit, mais pas arrêter la VMC. Le minimum aussi, ça peut être d'ouvrir 2 fois par jour ses fenêtres à raison d'une demi-heure. Et donc, on a déjà, je dirais, une évacuation de l'air pollué et parfois de l'air porteur de virus. Alors il y a d'autres solutions. L'autre solution, c'est de purifier l'air. Il y a des moyens, mais les purificateurs, une petite machine qu'on pose sur un guéridon, ça sert pas à grand chose. En tout cas, dans ce cadre-là, parce qu'il faut prendre. Il y a des matériels qui utilisent des ultraviolets. Les ultraviolets, donc, ont la capacité de tuer les virus et les bactéries. Faut pas être exposé trop longtemps. C'est-à-dire ça, on le fait pas marcher effectivement toute la journée. Il y a les ultraviolets et en complément le filtre HEPA, H-E-P-A. Ça élimine. Alors le chiffre qui est généralement donné, c'est 99,95% des particules fines et notamment des virus. Alors ça, des matériels avec filtre HEPA, on en trouve quand même pas mal dans le commerce. Ce qu'il faut, c'est changer les filtres ou les nettoyer, mais changer les filtres quand c'est requis, c'est extrêmement important. Et puis il y a aussi, alors là c'est un peu plus pro, c'est même nettement plus pro, ce sont les ioniseurs qui génère de l'ozone. Alors c'est radical pour tuer les virus. Mais attention, il faut pas y être exposé soi-même de façon prolongée. Donc en général, on traite, mettons une fois toutes les heures, on va traiter l'air. On sera pas dans la maison et derrière au moment par exemple où on va ouvrir les fenêtres. Alors enfin, dernière famille, il y a ce qu'on appelle les précipitateurs électrostatiques qui associés aux ultraviolets et à la filtration, diffuse des charges opposées. Et alors c'est marrant, non, c'est rien de marrant, mais ça marrant. Fait grossir les virus, ça les alourdit.
Ah bon?
Et donc ils tombent et donc du coup ils se diffusent plus dans l'air, mais il faut évidemment faire du nettoyage.
Ils doivent se faire mal, non?
Ils sont mal, ils sont des bosses. Alors on va pas les soigner les virus après.
Si on commence à leur dire oh mon pauvre petit virus.
Mais ce sont des dispositifs qui par exemple sont utilisés dans les chambres stériles, dans un certain nombre d'équipements hospitaliers, mais on trouve quand même des matériels dans le commerce. Le principal, c'est le filtre HEPA.
Vous savez, les vaporisateurs pour assainir l'air et tout, ça sert à rien, ça, on est d'accord. Mais rien du tout.
Rien du tout.
Et si on vaporise,
par exemple. Si, c'est bien pour enlever les odeurs. Il y a maintenant véritablement des bombes. Il faut faire attention parce que c'est pas le truc parfumé qui retombe en gouttelettes. Quand on veut utiliser des appareils comme ça pour simple des bombes comme ça, notamment pour enlever les odeurs, il faut prendre des bombes qui sont marquées sans retombées humides.
Ah, très bien.
Parce que vous savez, quand on connaît bien ça, dans les toilettes, on met un coup et puis pense d'un seul coup, on reçoit une douche de produits pour chasser les odeurs et on ressort parfumé, prairie fleurie, parfum des bois, fruits rouges. Il faut prendre des produits sans retomber. Mais ça n'a rien à voir avec la lutte.
Après, il ne faut pas s'asperger de déodorant pour verser non plus. Il ne faut pas être stupide comme ça.
Filtre HEPA, je le répète, H-E-P-A.
Très bien, Christian, merci pour toutes ces précisions. On revient dans un instant sur RMC et on attaque notre dossier de ce samedi matin.
Le biogaz.
Le 3216, l'appli RMC Direct Studio, vous le savez, vous pouvez à tout moment nous joindre, poser vos questions et on revient juste après la météo. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Merci d'être avec nous. Bon week-end avec RMC. C'est le week-end des experts. On est là jusqu'à 10h, vous le savez, avec nos meilleurs experts qui sont là. Tout à l'heure, on retrouvera Christian Ekia pour la forme et la santé. Juste après, ce sera Raphaël Grabli pour la vie numérique. Mais dans l'immédiat, c'est la maison avec Christian PC. Christian PC, notre dossier de ce samedi matin, eh bien, c'est le biogaz.
Voilà. On parle beaucoup de gaz vert. On verra ce que ça recouvre comme expression. Mais à la base du gaz vert, eh bien, il y a du biogaz qui est largement produit par méthanisation. Alors, nous sommes ce matin avec Marion Verspirène. Bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Vous êtes, on va dire, porte-parole de GRDF en la matière ce matin. Vous travaillez dans un service qui s'intéresse notamment à la rénovation. On en parlait aussi tout à l'heure, c'est cela ?
Tout à fait, la rénovation énergétique des logements.
Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est que on entend de plus en plus parler de gaz vert, d'électricité verte. On ne sait pas très bien ce que ça recouvre. En tout cas, on part pour nous ce matin du biogaz et notamment de la méthanisation. Il y a d'autres systèmes plus confidentiels. On en touchera deux mots tout à l'heure. Mais alors, comment ça marche comment on obtient du gaz qui peut ensuite être utilisé pour se chauffer ou pour faire la cuisine, avec donc ce principe de biométhanisation, parce que le méthane, il n'y en a pas ailleurs encore, mais la biométhanisation, c'est quoi ?
Alors la méthanisation, c'est un procédé naturel qui va consister à récupérer des déchets organiques, donc déchets qui sont bien souvent à l'origine des déchets agricoles, du monde agricole.
Oui, d'accord.
Les agriculteurs vont récupérer, par exemple, les lisiers de leurs élevages, ou alors les déchets qui sont issus de leur culture. Quand ils font pousser du blé, par exemple, ils vont récupérer la paille.
Oui.
Ils vont mettre ces matières organiques dans un digestat.
Un digesteur,
tout à fait, comme un estomac finalement,
d'accord.
Comme un estomac humain. Dans ce digesteur, comme dans l'estomac humain, on va y retrouver des petites bactéries qui vont venir digérer ces matières organiques et produire du méthane.
Et c'est l'agriculteur lui-même qui le fait ou est-ce qu'il donne cette matière première en quelque sorte à des organismes qui s'en occupent ?
Alors c'est une excellente question, tout à fait, c'est l'agriculteur lui-même qui le fait, ça lui permet lui-même de recycler les déchets.
Voilà, et de se faire un revenu supplémentaire j'imagine.
Et d'en tirer exactement un revenu supplémentaire.
Alors justement, on a en ligne qui nous attend Christophe Chrétien qui est responsable d'une unité de méthanisation pour la société Alto, qui est fabricant breton des chips Bretz, qui utilise notamment les épluchures de pommes de terre. Et,
génial ça.
C'est génial, bonjour monsieur Chrétien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vous qui êtes responsable donc dans ce groupe de ce type d'unité. Mais c'est significatif, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi comment ça marche et les résultats que vous obtenez ?
Oui. En fait, quand on produit des chips Bretz, on utilise des pommes de terre.
Bien sûr.
Et on les épluche avant et les épluchures jusqu'à présent n'étaient pas valorisées. Et en parallèle, quand on...
Vous les jetiez, en fait,
ils pouvaient être compostés ou jetés, en tout cas.
D'accord.
Et aujourd'hui, comme en parallèle aussi, quand on fabrique des chips, on utilise du gaz, on va dire du gaz gris, pour chauffer l'huile qui sert à frire les chips.
Oui.
On s'est dit que c'était assez naturel de valoriser nos déchets et en produire du gaz vert.
C'est quoi le gaz gris, c'est le gaz issu...
On va dire le gaz fossile.
Évidemment, c'est une très bonne idée, mais ça doit être un équipement important, lourd, pour que ça soit significatif, non ?
Alors, c'est un investissement relativement lourd. Alors, pour donner un ordre d'idée, des investissements de méthanisation, c'est des investissements, dans le cas présent, c'est des investissements qui sont à plus de 5 millions d'euros.
Ah oui.
Ce sont de gros investissements.
C'est pas encore pour les particuliers.
Il existe des méthaniseurs beaucoup plus petits, mais pour des particuliers, l'investissement est très lourd et il faut quand même des déchets de façon relativement importante, puisque là, aujourd'hui, c'est pratiquement 20 000 tonnes qui rentrent dans le méthaniseur. C'est 100% en fait des déchets organiques de l'usine Bretz qui est valorisé et on produit en gaz une quantité assez significative puisque c'est plus de 30% des besoins de l'usine.
Ouais.
Et c'est, si on met en équivalent, c'est l'équivalent de 5 000 habitants. Ah d'accord, une commune de 5000 habitants.
Oui, c'est, donc, c'est quand même très très significatif. Et alors, comment ça se passe? Vous le réinjectez dans le réseau ou bien vous l'utilisez directement?
Alors aujourd'hui, la méthanisation, bah, c'est ce qui a été décrit. Hein. On prend les épluchures, on les met dans une grosse marmite à 38 degrés, on produit du biogaz.
Oui.
Ensuite, ce biogaz, le biogaz, il est composé pour moitié, pour faire très simple, moitié de gaz carbonique et moitié de méthane.
Oui.
On enlève par système membranaire le gaz carbonique et le méthane, on l'injecte dans le réseau GRDF, le réseau public, et ça alimente les foyers du secteur de Pontivy.
D'accord. C'est-à-dire que ça ne vous sert pas à, en fait, à faire chauffer votre huile?
À aujourd'hui, ça ne nous sert pas. Ça pourrait nous servir. À faire chauffer notre huile. Aujourd'hui, c'est réinjecté dans D'accord. le réseau public.
D'accord. Très bien.
Alors, juste avant de l'injecter, on lui rajoute l'odorisation pour que le gaz ait l'odeur de gaz. Parce que naturellement, le biométhane n'a pas d'odeur de gaz.
Ben, on ne le sait pas souvent, ça, mais l'odeur du gaz, c'est une odeur ajoutée. Parce que le gaz, sinon, il ne sent rien. Hein. Très bien. Merci, Christophe Chrétien. Je rappelle, vous êtes responsable de l'unité, donc de méthanisation, des chips Bretz, hein, pour simplifier. Voilà, merci pour ce témoignage.
Bon, en tout cas, maintenant, quand on mangera des chips,
les chips bretonnes. Marion Verspiren, là, vous êtes contente. Hein, on vous réinjecte dans votre réseau, dans le réseau GRDF. Parce que je rappelle que GRDF possède le réseau de distribution, hein, c'est cela.
Réseau de distribution de gaz, oui, d'accord. Tout à fait.
C'est intéressant pour vous, ce genre d'unité. Est-ce que vous ne les subventionnez pas pour développer ce type d'activité?
Alors, effectivement, GRDF est pleinement investi dans le développement des gaz verts. Aujourd'hui, notre rôle n'est pas de subventionner l'installation de ces unités de méthanisation, mais bien de les accompagner dans leur installation et notamment les accompagner dans tout le processus de la conception de leur projet jusqu'au raccordement. Puisqu'effectivement, pour pouvoir se raccorder au réseau et injecter le gaz produit dans le réseau, il va falloir mettre en place le système d'injection et le contrat de rachat du gaz sur
D'accord.
15 ans.
À terme, est-ce qu'on peut imaginer que, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'on n'utilise que du gaz vert? C'est envisageable ou pas?
On y met toute notre énergie. Oui, c'est bien l'objectif. La première ambition qu'on s'est donnée chez GRDF, c'est d'atteindre 30% du gaz consommé en France en 2030, qui provient du gaz vert. Voilà, oui. 30% en 2030.
D'accord.
Et puis avec l'ADEME, que vous citiez tout à l'heure, l'Agence de maîtrise de l'énergie, il y a même un scénario vers lequel on sera à 100% en 2050.
Ah mais c'est pas on sera peut-être plus là pour le voir mais c'est quand même fantastique comme projet. Alors justement moi je cogitais et il y a aussi évidemment le solaire qui permet de produire de l'électricité, vous qui pouvez produire du gaz vert. Est-ce qu'on peut pas rêver, on parle souvent de la pompe à chaleur, est-ce qu'on peut pas imaginer donc une pompe hybride, puisque on en parle de plus en plus, dont l'électricité serait directement fournie par des panneaux et le gaz par du gaz vert? Est-ce que c'est la solution hybride dans ce domaine-là qui émerge aujourd'hui? Est-ce que ça vous semble une bonne solution?
Aujourd'hui, effectivement, il y a déjà des solutions hybrides qui existent, qui associent une pompe à chaleur avec une chaudière gaz. Et effectivement, il y a également des solutions solaires qui permettent de produire soit l'eau chaude, soit le chauffage complément.
Là, on arriverait à une autonomie complète de chauffage également, donc pratiquement. Évidemment, individuellement, on ne va pas produire du gaz vert, ça a été évoqué, mais ça serait effectivement intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de chauffage, en gaz alternatif? Parce qu'on pense toujours à la chaudière, mais il y a d'autres solutions, non?
Il y a d'autres solutions, tout à fait. Il y a par exemple un produit qui est encore pas très connu, qui s'appelle la pile à combustible, qui permet avec le gaz de produire de l'électricité. Donc là, le ménage est presque autonome dans sa production d'électricité.
S'il a en plus des panneaux, quoi.
S'il a en plus des panneaux, tout à fait.
On va y arriver.
Vous avez déjà également évoqué dans vos précédentes émissions les poêles, les cheminées qui fonctionnent au gaz. Ouais,
les foyers, moi, je trouve ça.
Les foyers.
J'étais assez étonné parce que vous aviez fait, il y avait une présentation qui a été faite il y a, je sais plus, un an et demi, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un effort considérable de fait sur la qualité de la flamme. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était moche, faut bien le dire. Il y en a encore d'ailleurs qui sont pas terribles, mais il y a véritablement un effet de feu qui devient presque analogue à celui de bûche.
On a effectivement une qualité de flamme qui est à la main de l'utilisateur, selon s'il préfère voir des crépitements ou voir une flamme.
Ah oui, ça crépite aussi.
Une flamme jaune, ça crépite, tout à fait.
D'accord. Mais ça chauffe vraiment, ça, ou c'est plutôt de la déco comme l'étaient ou le sont encore les foyers à bioéthanol?
Ah, ça chauffe parfaitement, ça chauffe aussi bien que les autres équipements fonctionnant par exemple au bois. Et là, le gros avantage de ces équipements-là, c'est que la chaleur est parfaitement maîtrisable avec une télécommande ou son smartphone. On peut vraiment piloter au degré près et de manière quasi instantanée la température que l'on souhaite.
Et donc, à ce moment-là, faut utiliser le conduit de la cheminée classiquement, quoi.
Tout à fait. Puis, on n'a plus besoin de stocker du bois ou alors de nettoyer son foyer. Il n'y a plus de suie qui est générée.
Alors, c'est bien, hein, ça. En préparant le dossier, alors j'ai vu des mots barbares. Pyrogazéification.
Oula.
C'est quoi, ça?
Vous allez faire peur à vos éditeurs. À vos auditeurs, pardon.
Oui, c'est quoi?
La pyrogazéification, tout à fait, ça consiste à chauffer les déchets organiques jusqu'à 1000 degrés pour transformer les déchets organiques en gaz. Donc c'est un procédé qui permet également de produire du gaz vert.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est pas encore une pratique qui est très répandue. On en est à nos premiers tests sur le terrain, mais c'est une des technologies qu'on regarde de près pour développer et encourager le développement des gaz verts.
Oui, et notamment pour aller dans le sens de la récupération, de déchets, quoi. C'est une
Tout
économie circulaire.
Économie circulaire, énergie renouvelable et emplois locaux.
Très bien. Mais écoutez, merci Marion Verspiren. Vous avez un site, hein, GRDF, quoi, on trouve
GRDF.fr.
Dessus. Et j'ai vu qu'il y a une partie qui est projet méthanisation GRDF.fr. Ça vous parle? Oui. Je suis allé voir.
Alors, il y a projetgaz.fr, tout à fait. Ah,
très bien. Merci à tous les deux. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Et on revient dans un instant pour terminer ce week-end des experts maison avec bien sûr vos questions au 32-16. Et puis, votre coup de cœur, on évoquera les dossiers MaPrimeRénov. Ça a l'air de bouger, Christian.
Ça
nous en parlera dans un instant. À tout de suite, c'est RMC.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Nous sommes de retour, le 32-16, pour toutes vos questions maison. Christian Pessé, tout va bien?
Tout va bien, ça gaze.
Ça gaze.
Bah oui,
bravo. Vous n'avez pas rond, Christian?
Non. Non, parce que les plus faciles sont les meilleurs.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Bien le dire.
Alors là, pour faire idéalement le lien, il faudrait qu'on ait un auditeur qui s'appelle Gaspard.
Oui, par exemple. Gaspard existe aussi, c'est un compteur intelligent.
Exactement. Mais nous avons un auditeur, ça c'est sûr. Et il s'appelle Mathieu. Bienvenue, Mathieu. Bonjour, bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Est-ce que Mathieu est là?
Bonjour, François.
Oui, bonjour, Mathieu. Bienvenue sur RMC.
Merci.
Vous nous appelez de quel endroit, Mathieu?
De Saint-Charnay dans le Cantal.
Très bien. Et on vous écoute.
Alors, je vous appelais en fait parce que j'ai un souci. Là, j'ai une cave qui prend tout le dessous de la maison, qui est semi-enterrée. Et j'avais une petite partie en fait qui est fermée par rapport à quoi? Qui est fermée par rapport à l'autre, par rapport à la grande, qui était en terre battue avec des galets, parce que tout le reste est bien dallé. Il y a une belle dalle.
Ouais.
Et en fait, j'avais des remontées d'humidité.
Ouais.
Donc du coup, je voulais décaisser et remettre une dalle en fait pour l'assainir parce que c'est un peu humide.
Ouais.
Mais sauf que le problème, c'est que au fur et à mesure où je descends, il y a de l'eau qui remonte et pas mal.
Ah oui, c'est embêtant.
Donc du coup, je me demandais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, savoir s'il fallait que je fasse une tranchée avec un puisard et mettre une pompe. Quelles sont les solutions en fait pour que éviter que ça remonte, parce que savoir si je peux mettre la dalle quand même dessus en mettant la bâche. Les galets, tout ce qu'il faut, quoi, pour.
Et elle est récente, votre maison?
Ah non, non.
Ah.
Alors, a priori, elle date fin 19e, quoi, à minima.
D'accord. Ah, vous savez, les gens, il y a un siècle, deux siècles, ils n'étaient pas fous, et quand ils faisaient quelque chose, c'était, il y avait des raisons, quoi. Hein. C'est que dans les maisons qui sont généralement en plus sans fondation, parce que ça doit être votre
oui,
cas, ou sans fondation profonde, on mettait de la terre battue. Pourquoi on mettait de la terre battue? Parce que la terre, avec les remontées d'eau, et puis là, en plus, vous avez des galets qui sont faits pour rendre une surface, je dirais, hétérogène, et pas bloquante, l'humidité s'en allait. Et on laissait ouvert, généralement, les vasistas, les fenestrons quand il y en avait. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, dans votre cas, l'eau, la nappe phréatique, elle est toute proche, quoi. Elle est à quelques dizaines de centimètres en dessous de votre maison, ou bien il y a des sources qui passent en dessous de votre maison. Et là, vous avez creusé et vous tombez, évidemment, sur la nappe, et donc avec des remontées d'eau qui peut-être autrefois n'existaient pas parce que l'environnement n'était pas le même. C'est-à-dire que autrefois il y avait des haies, il y avait des fossés qui drainaient tout autour. On a maintenant notamment le remontant, on est passé de pièces de terre de quelques dizaines ou centaines d'ars et à des pièces de dizaines d'hectares, et donc le drainage se fait différemment. C'est-à-dire que la flotte elle va chercher ailleurs son passage et elle passe sous les maisons. J'ai connu ça avec une maison il y a quelques années en Normandie. Alors, le fait de creuser, plus vous allez creuser, plus vous allez avoir de l'eau. Hein, ça c'est clair. Ensuite, le fait de pomper, c'est une affaire de Shadock. Hein, plus vous allez pomper le jour et la nuit, et plus vous allez faire venir d'eau. Hein. Donc, je pense que là, il faut d'abord que vous voyez quelqu'un de compétent en matière justement de traitement de ce type, non plus d'humidité, mais quasiment d'inondation. Il y a une solution. La solution radicale, c'est le cuvelage, hein, c'est-à-dire que vous mettez une boîte béton étanche, ou pratiquement étanche, dans votre cave. On y met parce que intuitivement vous avez une bonne idée, c'est que on y met ce qu'on appelle un puits de décompression, lequel on met une pompe et qui, lorsque la nappe remonte, il y a une évacuation pour peu que vous ayez la possibilité de l'évacuer, parce que ça dépend aussi. Si vous êtes dans un village avec une rue, ça va être un peu difficile, mais
oui.
Et voilà. Donc, c'est la solution technique. C'est la solution technique qui vous sera proposée. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres solutions? On peut s'interroger sur le fait. Moi, je vais faire un truc un petit peu empirique. Je vais peut-être me faire tuer par certains professionnels, mais je me demande si vous n'auriez pas intérêt à mettre, par exemple, un plancher sur poutrelles métalliques. Non traité de façon à ce qu'elle ne puisse pas être corrodée, et dessus vous pourriez jeter un plancher mais avec un composite qui ne risquera pas de pourrir. Ça serait une solution, puisque c'est une cave, hein, c'est pas une habitation. Vous pouvez en plus ne pas rendre vos lames de composite donc imputrescibles. Vous pouvez les poser de façon à avoir une petite distance entre, qui permettra l'évacuation de l'humidité par ventilation. Et très bien ventiler votre cave. C'est l'une des solutions.
J'ai un tuyau qui remonte en fait jusque sur le devant de la maison, là, sur la terrasse.
Oui.
Qui devait servir un peu de ventilation. Mais là aussi où j'ai pas trop compris, c'est qu'en creusant, j'ai vu aussi qu'il y avait, pareil, un ancien tuyau. Alors, je pense que c'est de la question d'eau, parce que j'ai envoyé avec un tuyau, j'ai envoyé dedans pour voir si ça s'écoulait. Ça s'écoule.
Ouais.
Donc, à mon avis, quoi, je sais pas, j'ai deux fontaines, je suis en plein bourg, donc j'ai une fontaine en face de la maison, et j'en ai une sur le côté, alors, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être de l'eau qui coule.
Oui, vous comprenez bien que si vous êtes à côté d'une fontaine, en dessous de votre maison, il y a de l'eau, forcément.
Oui.
Donc voilà, le cuvelage, peut-être ma solution qui pourrait être viable.
Merci beaucoup Mathieu. Et pour terminer ce week-end des experts maison, avant de retrouver Christian Eka dans quelques instants, après la météo et les infos de 9h pour une heure de forme et de santé, avant tout cela, le coup de cœur de Christian PC. Mon cher Christian, on va parler de MaPrimeRénov'.
Oui, alors MaPrimeRénov'.
Peut-être expliquer ce que c'est.
J'en ai parlé, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé de passer du système de crédit d'impôt
dont personnellement j'ai jamais été très fan, mais qui consistait donc à vous permettre de déduire une partie des travaux d'isolation, de rénovation, on va dire, de votre montant d'impôt, mais l'année suivante. Donc pour éviter ce décalage, le gouvernement a décidé de lancer MaPrimeRénov', qui va être donc une prime, je dis qui va être parce que le système va se mettre en place, et c'est ce que je vais annoncer justement là, c'est que vous allez toucher une prime directe qui vous permettra donc de payer une partie de vos travaux. Alors ça s'appelle MaPrimeRénov'. Pendant un an, pendant 2020, le système du crédit d'impôt va perdurer pour les, on va dire, pour les revenus moyens, et pour les plus défavorisés, ça va être ce système de MaPrimeRénov' qui va enclencher. Alors ça sera distribué par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Le début du traitement des dossiers accessibles au dispositif va commencer en avril. On sait que dès maintenant, il y a eu 15 000 dossiers de déposés. Bravo pour l'ANA, je leur souhaite bon courage.
J'espère qu'ils sont quelques-uns,
qui seront traités donc dans les tout prochains jours, puisque ça devrait débuter début avril, donc c'est dans une quinzaine de jours. Alors l'agence ne devrait pas manquer de moyens, puisque le budget de l'opération a été porté à 1,4 milliard d'euros. C'est considérable.
Ah oui, c'est énorme.
Hein. C'est considérable. Avec pour objectif de distribuer 200 000 primes cette année et 500 000 l'année prochaine, puisque l'année prochaine, il n'y aura plus que le dispositif MaPrimeRénov'. C'est parce qu'il y aura donc une généralisation du dispositif. On va voir très rapidement si ça fonctionne ou si ça s'engorge. Je pense que l'ANA a dû mettre en place les moyens pour cela, mais tout le monde attend.
Très bien.
Un peu dubitatif, mais en tout cas, ça va se mettre en place dans l'année, quoi.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, parfait tout cela. Merci beaucoup, Christian.
Mais je vous en prie, mon cher François.
Christian,
je suis là pour ça. À votre disposition.
Oh, mais alors, écoutez, j'apprécie au plus haut point, mon cher Christian. On se retrouve la semaine prochaine. Vous serez là. Bien sûr.
Sans
vous savez. 7h, 8h sur RMC, le jardin, la maison, la forme, la santé, la vie numérique, avec dans un instant donc Christian Ekia qui me rejoint. On va parler de travail et de santé et de forme. Tiens, voilà, ouais. On va mixer les deux. Et puis bien sûr, toutes vos questions forme santé, dès maintenant, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après la météo, les infos et l'actu sport. À tout de suite.